Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous, à l'écoute de ce bulletin d'information. Sommaire aujourd'hui, conférence sur l'OTAN, Miloš Zeman appelle à en finir avec le gaspillage dans l'armée. Le gouvernement a approuvé une aide de 1,8 million d'euros pour l'Ukraine et Věra Chytilová, la réalisatrice phare de la nouvelle vague tchécoslovaque, est décédée ce mercredi. À la conférence qui s'est tenue ce mercredi à l'occasion du 15e anniversaire depuis l'adhésion de la République tchèque à l'OTAN, le président Miloš Zeman a prononcé un discours critique à l'égard de la gestion économique au sein de l'armée. D'une part, le chef de l'État a critiqué la réduction du budget alloué à l'armée, ce qui quittançait à la même conférence le chef d'état-major des armées, Petr Pavel. D'autre part, Miloš Zeman a dénoncé le gaspillage de l'argent au sein des forces armées. Il a cité comme exemple de ce gaspillage l'acquisition des avions L-159 fabriqués par la société tchèque Aerovodochody et dont le projet de vente en Irak a été annulé en décembre 2013. Miloš Zeman a également évoqué la crise en Ukraine et a réitéré son appel à créer une communauté de défense européenne. Ce mercredi, le gouvernement tchèque a également approuvé de verser 50 millions de couronnes, soit 1,8 million d'euros pour les projets de reconstruction en Ukraine. Cet argent est surtout destiné à la réparation des hôpitaux, des écoles et des établissements sociaux. Il sera accordé pour des projets précis tout en privilégiant les entreprises tchèques. La somme sera couverte par les réserves budgétaires et en partie par le budget du ministère des Affaires étrangères. La République tchèque a déjà participé à la hauteur de 18 millions de couronnes, soit 660 000 euros au programme Medevac, un programme d'évacuation humanitaire des personnes touchées par la guerre qui ne peuvent être soignées sur place. Quelques dizaines de blessés ont été transportés de l'Ukraine en République tchèque. Ce mercredi, à l'âge de 85 ans, est décédée Věra Chytilová, la réalisatrice phare de la nouvelle vague tchécoslovaque. Grande figure du cinéma des années 60, aux côtés de Jiří Mencel et Miloš Forman, Věra Chytilová signait par exemple les films Les Petites Marguerites et Le Jeu de la Pomme. Au total, la réalisatrice et scénariste a produit une quinzaine de longs-métrages et de nombreux courts-métrages. Elle a été récompensée par l'Ordre français des arts et des lettres et en 2009, Věra Chytilová a reçu la médaille d'or de l'Académie des arts de Prague, l'académie où elle a aidé à former plusieurs générations de cinéastes tchèques. Le Festival international du film documentaire Jeden Svět s'achève ce mercredi à Prague et les différents jurys ont remis leur verdict. C'est le long métrage Judgment in Hungary du réalisateur hongrois Eszter Hajdú qui a obtenu le prix du meilleur film. Le thème de ce documentaire est le procès de quatre néo-nazis jugés pour le meurtre d'une personne rome. Outre le prix du meilleur réalisateur remis à la Suédoise Linda Vastrik pour La forêt aux esprits, le grand jury a également décidé de décerner une mention spéciale à deux films, L'expérience Blocker de Jean-Sébastien Braun et L'escale de Kaveh Bakhtiari. La 16e édition du festival Jeden Svět, construit cette année autour de la problématique du travail, a attiré 26 170 spectateurs. 600 films étaient projetés et le nombre d'entre eux seront proposés dans les différentes villes en République tchèque où séjourne le festival jusqu'au 13 avril. Et nous terminons sur un mot de météo. Le soleil brille et le ciel est d'un bleu pur encore et toujours pas de nuages sur le territoire tchèque ce jeudi, jour de la fête de toutes les Růžena. Les températures maximales vont de 14 à 16 degrés. Lucie Drexelová vous remercie d'avoir suivi ce bulletin d'information. Restez à l'écoute pour la suite de notre programme avec Pierre Maignan.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à tous et à toutes mes amis pour la suite de cette émission de Radio Prague consacrée à l'actualité tchèque. Mais il me faut tout d'abord remercier Lucie Drasselova pour la qualité de ses informations. Au programme aujourd'hui, le 15e anniversaire de l'adhésion de la République tchèque à l'OTAN, le concert à Prague du projet musical Nouvelle Vague et enfin de l'histoire, nous visiterons aujourd'hui les collections d'art médiéval de la Galerie Nationale. Bonne écoute à tous et à toutes. Le 12 mars 1999, la République tchèque, en même temps que la Pologne et la Hongrie, rejoignait l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, alliance militaire entre les États-Unis, le Canada et la plupart des pays européens. Cette adhésion, dont est célébrée ce mercredi le 15e anniversaire, signifiait surtout pour la République tchèque son ancrage dans le monde occidental. Depuis la dissolution du pacte de Varsovie, acté à Prague en 1991, la raison d'être de l'OTAN et son rôle sont toutefois critiqués et l'alliance militaire est aujourd'hui l'un des enjeux géopolitiques autour de la crise politique qui secoue l'Ukraine. 250 000 soldats au début des années 1990, l'armée tchèque compte à présent près de 21 000 militaires, une force réduite mais qui s'inscrit dans le cadre d'une alliance militaire plus large, celle de l'OTAN. Annoncée en juillet 1997 lors du sommet de Madrid, l'adhésion de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque à l'organisation atlantiste, effective le 12 mars 1999, a changé la donne géopolitique en Europe. Le président tchèque de l'époque, Václav Havel, grand partisan du rapprochement avec l'Ouest et les Américains, ne s'y est d'ailleurs pas trompé. Jamais nous n'avons fait partie d'une alliance de défense aussi large, aussi forte et aussi obligeante et qui en même temps respecte notre indépendance, notre volonté, notre nation. À l'époque, le président tchèque ajoutait après bien des années dramatiques d'existence de notre État, sa sécurité est désormais garantie et solide car il devient un membre solidaire de la sécurité de tout le monde américano-européen. Si cette adhésion semble aujourd'hui largement acceptée par la population tchèque, à en croire un sondage publié récemment, elle fait face également à certaines critiques. Accusée de servir les intérêts américains et de n'avoir plus de raison d'être depuis la fin de la guerre froide, l'alliance serait aussi pour ses détracteurs un facteur d'instabilité plus que de résolution des conflits. En République tchèque, ce sont principalement les communistes qui élèvent la voix contre le projet atlantiste. Le président de cette formation, Vojtěch Filip, soutient l'idée d'une organisation de défense à l'échelle strictement européenne. Quand un de ses collègues, le député Alexander Tcherny, conteste les apports de la participation tchèque à l'OTAN. Nous avons payé cette adhésion à un prix non négligeable, principalement parce que ces 10 à 15 dernières années, nous avons construit notre armée plutôt pour les besoins de cette alliance avec la mise en place de corps expéditionnaires qui ont aidé l'OTAN dans le cadre de différentes régions de tension qu'en prenant réellement en considération notre propre sécurité. L'élargissement progressif de l'alliance militaire à ses portes inquiète largement la Russie. Des inquiétudes qui ne sont sans doute pas étrangères au comportement offensif de Moscou vis-à-vis de l'Ukraine où un projet de loi sur l'adhésion à l'OTAN vient justement d'être déposé au Parlement. La proposition du sénateur républicain et ancien candidat à la présidentielle américaine John McCain de réétudier la possibilité d'installer un bouclier antimissile en Pologne et en République tchèque n'apaise assurément pas la situation. Le ministre des Affaires étrangères tchèque, Martin Stropnický, du mouvement ANO, a écarté cette option. Il faut d'abord rappeler qu'il était question du radar dans le cadre de la possible menace que constituaient l'Iran et son programme nucléaire. Dans ce sens, j'aurais tendance à prendre ce thème avec prudence. Et il faut également dire qu'il s'agit d'une technologie aujourd'hui dépassée. Depuis 1999, des soldats tchèques ont pris part à 7 missions dans le cadre de l'OTAN. La participation à cette alliance atlantiste a aussi des implications financières. Selon ces statuts, les États membres s'engagent à dépenser au moins 2% de leur PIB dans le secteur de la défense. En 2013, la République tchèque a mobilisé 1,08% seulement de son PIB dans ce domaine. C'est dans une salle pleine à craquer du Palace Acropolis que le projet musical internationalement connu Nouvelle Vague s'est présenté le 28 février dernier au public pragois, et ce pour la 6e fois déjà. 6 musiciens de nationalité française et australienne sont montés sur scène pour interpréter à leur fidèle public des morceaux désormais connus de tous. Car Nouvelle Vague, c'est le fruit de la collaboration avec différents artistes, chanteurs et musiciens, que ce soit récemment Cœur de Pirate, Charlie Winston ou Martin Gore des Depeche Mode, et la volonté de recréer, retravailler ce qui a déjà été inventé. Denisa Tomanova a eu l'occasion de s'entretenir entre deux répétitions avec Marc Collin, un des initiateurs de Nouvelle Vague, qui est revenu sur l'originalité d'un projet vieux de 10 ans et qui a bien évolué depuis.
Remonte à l'année 2004, année où paraît votre album éponyme. Comment vous êtes-vous rencontrés ?
C'est un concert, en fait, c'est une idée. Et on a décidé de... C'est de reprendre des chansons des années 80, faites par des groupes New Wave, et de les faire en bossa nova. Et puis ensuite, j'ai appelé Olivier, et on a commencé à faire des instrumentaux, et puis on a appelé des chanteuses, mais des amis chanteuses, en fait, qui étaient à Paris. Et ça s'est passé comme ça, très rapidement. Donc c'est pas du tout un principe de groupe qui répète, etc., etc. C'est pas ça, en fait. C'est vraiment un concept, quoi.
Et disons, si au début c'était un projet, comment est-ce qu'il a évolué en groupe ?
Il a jamais vraiment évolué en groupe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a jamais les mêmes gens. Sur le deuxième album, il y a d'autres chanteurs, d'autres chanteuses. Il y a des morceaux qu'on fait avec un accordéoniste, par exemple. D'autres qu'on fait avec un guitariste. Sur le troisième album, on a invité des gens qui avaient chanté sur le... qui des originaux, le chanteur de Depeche Mode, le chanteur de The Specials, par exemple. Donc c'est à chaque fois une idée qu'on essaie de faire évoluer. Et en live, il y a plein de gens différents tout le temps. Ouais.
Le nom La Nouvelle Vague décrit donc un courant cinématographique mondialement célèbre des années 60. Ouais. Pourquoi cette référence à La Nouvelle Vague ?
Parce qu'en fait, c'est la traduction de New Wave et de Bossa Nova. Voilà. Les deux se traduisent en français par Nouvelle Vague. Donc ça a un sens. Donc c'est pas forcément lié au cinéma. Même si on peut trouver des liens, mais c'est pas forcément lié à ça. C'est plus vraiment la traduction.
Plusieurs musiciens se sont relayés à un projet. Ouais. Ce soir, à Prague, à Palais Acropolis, qui se présente ?
C'est simple. Il y a le collier Libo à la guitare, Thibaut Barbillon à la basse, Julien Boyer à la batterie. Et il y a Mélanie Pain et Nadea. Et comme on disait tout à l'heure, en fait, Nadea n'a pas joué avec nous depuis à peu près 2 ans. Donc c'est un peu marrant ce soir, parce qu'en fait, c'est un peu des retrouvailles.
Connaîtrais pas de quel élément composer votre musique.
C'est acoustique. C'est vraiment de la musique acoustique. C'est un mélange en fait de plein d'influences. Il y a à la fois de la musique de film, du blues, du rock, du reggae, du bossa nova, à notre sauce, en faisant des reprises de morceaux punk, new wave, donc qui n'a rien à voir avec ce son. C'est ça, c'est ce qui fait à mon avis l'intérêt, l'originalité de ce qu'on fait.
Où est-ce que vous puisez votre inspiration ?
Où est-ce que, c'est ça. Là, on n'en a plus trop, mais en fait, c'est vraiment une relecture, en fait. C'est-à-dire que je compare un peu le travail qu'on fait, un petit peu comme font les metteurs en scène, quand ils reprennent, par exemple, du Shakespeare. Bon, pas comparer la nouvelle du Shakespeare, mais c'est un peu le même travail. C'est-à-dire que c'est en fait prendre des classiques, qui sont pour moi des classiques, parce que les morceaux de Cure, de Depeche Mode sont des classiques pour moi, de ma génération, et de les réinventer complètement. Et on les réinvente en s'inspirant de bien d'autres styles de musique qui, on pense, peuvent avoir un intérêt avec cette chanson. C'est vraiment un travail comme ça. Donc l'inspiration, elle est partout. Ça peut être un film, un livre, la musique, plein de choses, quoi.
Vous composez donc également votre propre musique ?
Oui. Effectivement, on a chacun, comme on disait, des projets solo. Olivier, comme il a dit, il a son projet qui a des reprises de Queen of the Stone Age, le groupe. Mélanie, elle a sorti 2 albums, dont elle a joué il n'y a pas longtemps ici. Ça s'est très bien passé, apparemment. Nadea, elle travaille sur son 2e album aussi. Et moi, je travaille sur un projet qui s'appelle Bristol, qui sont pour le coup, cette fois, ce sont des reprises des morceaux des années 90, trip-hop. Voilà, moi je fais des musiques de films, je fais plein d'autres choses. Ouais. Nouvelle Vague, c'est un peu une récréation pour nous. C'est-à-dire que ça a très très bien marché. Et on a fait des tournées dans le monde entier, et ça a été quelque chose qui a changé notre vie, hein, franchement. Maintenant, on a développé d'autres projets, et quand on revient en Nouvelle Vague, on est content de se revoir. Mais y a, voilà, comme je disais, il n'y a plus vraiment d'actualité, il n'y a plus un côté. C'est un peu un projet qui curieusement attire toujours les gens, c'est pour ça qu'on est là. Mais disons que c'est un projet qui a eu vraiment 10 années pleines, et que maintenant je pense qu'il faut faire une petite pause et puis attendre de voir un peu ce qui se passe. Peut-être qu'on reviendra avec quelque chose de nouveau.
Sans transition, on passe à la rubrique historique. Havre de tranquillité en plein centre-ville de Prague, le couvent Sainte-Agnès abrite une des collections les plus précieuses de la Galerie Nationale. La collection d'art médiéval d'Europe centrale. Des œuvres uniques tant par leur qualité que par la quantité et dont on ne trouve pas d'équivalent au nord des Alpes selon les mots de Katarzyna Pruszowa, lectrice à la Galerie Nationale et professeure d'histoire de l'art à l'université anglo-américaine. Elle a accepté avec une grande gentillesse de nous faire découvrir les panneaux peints, œuvre des grands maîtres du XIVe siècle et remarquablement conservés qui composent cette collection. Ce reportage est une rediffusion du 9 janvier 2013.
Chapitre de l'histoire.
Grâce à notre guide, Katarzyna Pruszowa, nous avions déjà pu comprendre et apprécier l'atmosphère particulière du couvent Sainte-Agnès, fondé au XIIIe siècle et qui aura connu les turpitudes de 800 années d'histoire. Et c'est au sein de ce bâtiment apaisant, perdu dans les ruelles du Prague historique, qu'est exposée la formidable collection d'art médiéval de la Galerie Nationale. Peu d'œuvres du bas Moyen-Âge sont parvenues jusqu'à notre époque, et à ce titre, celles conservées dans ce musée sont un témoignage unique de l'expression artistique du temps de Charles IV, quand celui-ci, roi de Bohême et empereur du Saint-Empire romain germanique, était le souverain le plus puissant du monde chrétien et Prague, sa capitale, l'un des grands centres politiques et artistiques en Europe. La visite commence par une salle dédiée à des représentations de la Vierge à l'Enfant, de la Madone. Il s'agit des plus vieilles pièces de la collection, datant de la première partie du XIVe siècle. On y découvre notamment la Vierge de Vyšehrad, lieu de sépulture de certains rois de la dynastie des Przemyslides. Il s'agit d'une vierge humble qui correspond à la figure iconographique de la Madone de l'Humilité, contrairement au modèle byzantin ou italien qui représente la Vierge allaitant son enfant. Celle-ci présente la particularité d'avoir le sein recouvert. Des vierges au char d'honneret nous attendent ensuite, celles de Most et de Zbraslav. L'enfant Jésus y porte un char d'honneret à la main, oiseau annonçant la passion du Christ. On écoute Katarzyna Pruszowa.
Donc ça c'est la Madone de Zbraslav qui a été fondée par la fin 13e en tant que sépulture pour des rois Przemyslides. Il y a des motifs très intéressants. Enfin, Jésus est vêtu seulement dans une chemise transparente pour faire voir son corps. Et il tient aussi le même oiseau. Et il touche la Vierge dans ses gestes assez tendres. Et la Vierge porte une bague nuptiale, ce qui est un motif qu'on peut expliquer dans la lumière de la Cantique des Cantiques, ce qui est la partie la plus érotique du Bible de l'Ancien Testament. Et au Moyen-Âge, on ne savait pas exactement quoi faire avec cette partie, avec cette très érotique des Bibles. Donc on a expliqué la relation des amoureux comme la relation de l'Église qui désire son bien-aimé alors qu'il désire le Christ. Et comme l'Église était traditionnellement représentée par la Vierge, donc on a ici la Vierge qui est mariée à Christ, qui est la fiancée de Christ, donc la mère qui est fiancée de son propre fils.
L'érotisme de ce tableau nous contraint de changer d'air. Nous poursuivons la visite vers la seconde salle. Il faut noter au passage que le musée est très bien aménagé et s'y promener est très agréable. Une nouvelle salle donc où s'offre aux yeux du spectateur un cycle de 9 tableaux qui surprennent par leur couleur or. Katarzyna Pluszowa.
Ici, on est dans une salle où est conservé le retable de Vichy Brott. En allemand, on dit de Hohenfurt. Hohenfurt, Vichy Brott se trouve en Bohème du Sud. Il y a un magnifique couvent des cisterciens à Vichy Brott. Ce cycle a été présenté soit en tant qu'un retable pour à l'église à Vichy Brott, dans une forme carrée. Donc vous voyez qu'il y a 9 panneaux. Donc il y a des chercheurs qui pensent que c'était présenté dans 3 registres, puisqu'il y a un cycle qui parle de la au Noël, il y a l'Annonciation, la naissance de Jésus, le roi mage, donc ça, c'est un cycle de Noël. Après, il y a 3 images sur la souffrance de Christ, donc c'est le cycle de Pâques, c'est-à-dire le Christ sur la montagne des Oliviers, la crucifixion et la lamentation après suite à la descente du croix. Et les 3 derniers tableaux, c'est la glorification de Christ et le Pentecôte, donc la descente du Saint-Esprit.
Membre de l'une des plus puissantes et influentes familles de Bohême, Pierre de Rogenberg, un aristocrate contemporain de Charles IV, aurait financé cette œuvre. Certains historiens de l'art pensent que le cycle n'aurait pas été exposé au couvent de Vichy Brod, mais à Prague, à la cathédrale Saint-Guy, pour le couronnement de Charles IV, roi de Bohême, en 1347. Le cycle de Vichy Brod est en tout cas une des pièces majeures de la collection, et elle a d'ailleurs attiré certaines convoitises.
Aussi, ce qui est très intéressant, c'est aussi que ça a fasciné aussi Hitler. Hitler voulait beaucoup acquérir cet hôtel dans sa collection parce qu'il a envisagé de fonder un musée à Linz. Il voulait avoir une sorte d'hermitage ou de Louvre. Donc, on sait qu'il voulait vraiment acquérir le Van Eyck, l'hôtel de Ghent, le retable de Ghent de Van Eyck. Il aimait beaucoup aussi maître de Vichy Brott. Heureusement, ce cycle a survécu dans le studio des restaurateurs, puisqu'ils ont dit qu'il faut le toucher un peu, qu'il faudrait le restaurer. Donc ça n'a pas. C'était brièvement en Allemagne, mais c'est revenu dans des collections de la Galerie nationale.
Cette œuvre est effectivement fascinante et les 9 panneaux peints recèlent de personnages et de détails remarquables. Plusieurs œuvres, telles que la Nativité ou la Glorification du Christ, présentent des ébauches de perspectives, marque de l'influence italienne. Katarzyna Pluszowa nous fait remarquer que les peintures sont cependant inégales. Certaines présentent des visages peu expressifs et la composition reste simple. Il faut dire que ces 9 réalisations ne sont pas l'œuvre d'un seul artiste, mais de plusieurs, qui est donc le fameux maître de Vichy Brod.
C'est un maître anonyme qu'on a nommé d'après ce cycle parce que au Moyen Âge, soit on connaît le nom de l'artiste, mais on ne peut pas lui attribuer quoi que ce soit. Ou on a justement des œuvres d'art, on a un cycle, mais on ne connaît pas le nom de l'artiste. Donc, au Moyen Âge, c'est une situation très difficile parce que ce n'est qu'un fragment qui a survécu à nos jours. Ce n'est qu'une dixième, peut-être. C'est trop de la richesse qui nous est survécue parce que le bois, spécialement, ça brûle très bien.
Cependant, une exception confirme la règle et c'est ce que nous prouve la salle suivante où une série de portraits attendent le visiteur, des portraits dont le style diverge fortement avec le style linéaire typique des réalisations de la moitié du XIVe siècle que l'on a pu appréhender jusque-là. Katarzyna Pluszowa.
Ces 6 tableaux font partie de la collection de 129 tableaux. À l'origine, il y avait 130 de ces panneaux qui sont placés à Karlstein, ce qui est un château à l'ouest de Prague. Et un tableau est perdu, mais c'est vraiment un miracle que ces 129 tableaux soient survécus à nos jours. Et ils étaient peints par Maître Théodoric. Donc, dans ces cas, on connaît le nom de l'artiste, on a quelques détails sur sa, on connaît quelques détails sur sa vie, et on sait ce qu'il a peint. Les tableaux nous sont survécus, donc c'est un cas très rare pour le Moyen-Âge. Maître Théodoric, c'était un peintre des cours de Charles IV. Et il a décoré cette chapelle Sainte-Croix, il a recouvert avec des tableaux avec des demi-figures de saints qui doivent représenter l'armée sainte du Christ qui devait protéger à la chapelle Sainte-Croix les joyaux de couronnement, des joyaux impériaux, la couronne impériale. Ce qui était placé à Karlstein et d'autres reliques importantes.
Dans les cadres des tableaux, des emplacements recouverts de pierres précieuses permettaient de déposer des reliques, mais en près de 6 siècles de temps, elles ont pu être perdues ou des ingénus ont tout simplement pu s'en emparer. Il s'agissait en réalité de reliquaires sous forme de tableaux, car Charles IV ambitionnait de réunir toutes les reliques de tous les saints en un emplacement unique, réalisation dont l'ambition était ni plus ni moins de faire revenir le Christ sur terre, ce qui n'aurait pas manqué de conforter la puissance de l'empereur. Un empereur qui vénérait Charlemagne, or ce dernier est représenté sur l'un des panneaux peints, et selon Katarzyna Pruszowa, c'est un cryptoportrait. Le portrait de Charlemagne cacherait celui de Charles IV. Les traits des personnages représentés sont très détaillés et témoignent de la maîtrise exceptionnelle de Maître Théodoric. Et c'est avec un autre maître que nous allons achever la visite, le maître de Trébogne, que nous présente notre guide devant une œuvre représentant le Christ sur la montagne des Oliviers.
Maître de Trébogne n'a plus travaillé pour des aristocrates ou pour un souverain, mais il a travaillé pratiquement uniquement pour l'ordre monastique, pour les Augustins de Chamois, ce qui est un ordre monastique très riche traditionnellement. C'est un style déjà complètement différent du style de Maître Théodoric. De ce style, chez Maître Théodoric, on a vu des figures robustes, très, avec des veines, très naturalistes. C'est devenu vraiment un style impérial de Charles IV, qui était reconnaissable facilement. Donc Maître de Trébogne, il change complètement. Ici, on voit des figures qui sont pratiquement dématérialisées. Il utilise des diagonales dans ses compositions. Il utilise des ciels qui sont rouges avec des étoiles dorées.
Le maître de Trébogne semble déjà subir des influences franco-flamandes, là où ses prédécesseurs étaient plus tournés vers l'Italie. La qualité d'un voile transparent recouvrant le corps du Christ sur la troisième œuvre de ce cycle témoigne de son brio. C'est avec cette œuvre que se termine notre visite radiophonique qui mériterait pourtant qu'on s'attarde bien plus longuement sur les trésors que recèle ce musée, tels que l'admirable collection d'art hussite. Voilà, c'est avec cette rubrique historique, une rediffusion du 9 janvier 2013 qui était consacrée à la collection d'art médiéval de couvent Sainte-Agnès que s'achève cette émission. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous était présenté par Pierre Ménian. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt. Ahoy.